écouter Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, dans son L'amoureux des lettres, dans son émission au Café Littéraire du mois de décembre. Et je vous signale, pour les fêtes de Noël et de fin d'année 2024, un superbe album intitulé « Sur les chemins de Stevenson », édité par Gallimard Voyage. En fait, c'est un véritable guide réalisé aujourd'hui par des randonneurs qui ont repris ces chemins parcourus au XIXe siècle, vers les années 1878, par Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, idéaliste, malade aussi, c'est pour ça qu'il a dû voyager, philosophe, rêveur, amoureux et humaniste, qui nous invite à l'évasion et à la curiosité sur les lieux qui ont inspiré ses romans, comme L'île au trésor, Enlevé, Catriona, ses récits de voyage en canoë sur les rivières du Nord, un voyage avec un âne dans les Cévennes, le plus connu de ses récits, que j'ai d'ailleurs apprécié, que j'ai commenté ici. C'est d'ailleurs par ce texte que commence ce cheminement en France, avec une ânesse qui s'appelait Modestine, une flânerie allant du Puy-en-Velay, le Monastier sur Gazeille, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard et Alès. Avec de très belles rencontres ou visions, des paysages sublimes, toujours changeants, avec ou sans un compagnon à longue oreille, donc ici on dort à la belle étoile ou dans la douceur des refuges, donné dans cet ouvrage. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'un guide, c'est un véritable guide, vous aurez tous des renseignements d'hébergement ou pour manger dans cet album. Voici une description, je rejoins le paisible village de Chasserades à travers des décors brodés de genêt. L'ânesse, qui s'appelle ici Cracotte, impose de vivre comme elle dans le présent, sans se soucier du reste, certaine qu'elle finira par arriver à sa destination. C'est une ânesse qui a l'habitude de faire ce voyage, alors donc elle le connaît encore mieux que Coralie Grassin, qui raconte ce parcours, qui a refait aujourd'hui ce parcours. En avril 1875, Stevenson, qui vient pour la première fois, à Barbizon, oui, et il est tombé sous le charme de cette colonie d'artistes située en lisière de la forêt. Ça, c'est le deuxième voyage, le deuxième récit, de Barbizon, la forêt de Fontainebleau, si bien qu'il va passer 4 étés successifs dans la région, le temps d'affermir sa vocation littéraire et de rencontrer vraiment la femme de sa vie, Fanny Osborne, qui vient d'Amérique, qui devra divorcer pour qu'il puisse se marier. Aujourd'hui, un itinéraire de randonnée permet de suivre les pas du romancier entre Barbizon, Grès-sur-Loing, Moret-sur-Loing, Fontainebleau, la forêt et le château. Et le château London, au cœur de paysages qui ont inspiré les artistes du monde entier. On y retrouve Alfred Sisley, Rosa Bonheur, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, que du beau monde, avec L'appel de la forêt aussi, qu'il a pu écrire. Le charme de Fontainebleau est un phénomène sans pareil, dit-il. C'est un lieu qu'on aime plus que qu'on l'admire. Et il ajoute, l'artiste peut y être désœuvré sans craindre la morosité. Il peut y prendre la vie à la légère. Voilà pourquoi il est revenu 4 fois. Alors, dans la troisième partie, on parle des rivières et les canaux du Nord, allant de la Belgique en passant par Maubeuge, Pont-sur-Sambre, Maroilles, le fameux fromage, Noyon, Pontoise, Compiègne, à travers les Hauts-de-France à vélo, aujourd'hui, alors que lui, il a fait le sillage, dans le sillage du canoë de Stevenson. Alors je passe, on peut... Alors, on arrive à Auvers-sur-Oise, donc plus au nord, et à l'auberge Ravoux, la dernière demeure du peintre Vincent van Gogh, enterré ici, à Auvers-sur-Oise, avec son frère Théo, qui est mort, qui était plus jeune, mais qui est mort quelques mois après. Nous sommes en 1853 et 1890. Alors, Auvers-sur-Oise, paisible village qui inspira de grands noms du mouvement impressionniste, tels que Daubigny, Cézanne, Pissarro et Van Gogh, bien sûr, l'illustre peintre hollandais au sommet de son art, y passa les 60 derniers jours de sa vie, très prolifique. Il peignit 74 tableaux représentant la vie paysanne et l'architecture locale. Et les deux derniers portraits, je vous en parlerai dans un autre roman. Alors bien sûr, en quatrième partie, on retrouve, contraint par sa santé, une santé fragile, à suivre de longues cures dans des villes thermales européennes, poussé par son goût d'aventure et la vie de bohème sur les canaux du Nord et les chemins des Cévennes et la forêt de Fontainebleau, Robert Louis Stevenson a beaucoup voyagé en Europe avant de rejoindre pour toujours les mers du Sud, l'Amérique, puis le Pacifique. Alors, je ne parle pas, il y a une quatrième partie, voilà, que vous découvrirez, Édimbourg, l'île des Raids, le Stevenson Way, voilà, l'île of Mull. Donc, à vous de découvrir cette quatrième partie qui termine ce beau livre sur les sentiers de Stevenson. Voilà. Et j'en viens au premier roman que je voulais vous présenter, qui s'intitule « Jeanne d'Arc », avec un sous-titre plein de très 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 spécifique, un second « Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France ?» Et c'est de Émeric de Malécy, édité par Via Romana. Émeric de Malécy est officier retraité. Il apporte donc un regard de militaire, et c'est cela qui m'a impressionné dans ce Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France. Il est vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Il s'est passé en France en 1429 et 1431 quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Une série d'événements prodigieux, dignes des temps où Dieu intervenait directement pour sauver le peuple hébreu de la destruction. La France, comme jadis Israël, a bénéficié d'une faveur de Dieu. Et c'est Jeanne d'Arc, précisément. Jeune fille simple et douce, de 17 ans, qui au cours des 3 années de sa vie publique, 3 années, s'est révélée le plus redoutable des chefs de guerre, car il a fallu que les chefs de guerre qui l'ont accompagné pour accomplir son destin, pour que le roi de France retrouve le pouvoir et soit désigné roi à Reims, hein, eh bien, elle a réalisé cet exploit formidable, mais il a fallu aussi, bien sûr, qu'elle soit acceptée des autres chefs militaires qui l'ont accompagnée dans ce destin prodigieux. Le plus clairvoyant des politiques, car c'est une action politique qu'elle a accomplie à 17 ans, et le plus sage des accusés, et le plus émouvant des condamnés, parce que la Sorbonne, enfin l'université, tout ça, la condamnée n'a pas accepté qu'elle libère la France au nom du Christ, voilà, et de Marie, et des anges, de Saint-Michel, et tout ça, qui l'ont accompagnée dans ce destin prodigieux. Toute sa vie à Jeanne, toute sa vie est comme un diamant qui trouve ses plus beaux reflets lorsqu'on l'éclaire à la lumière de son maître et seigneur qui est Jésus-Christ. C'est lui son vrai roi et qui a fait du roi de France un lieutenant. Sa vie, c'est l'évangile de la royauté du Christ proclamé à toutes les nations. Et l'évangile de la vocation de la France, voilà, la France a une vocation. Mais aussitôt qu'on reconnaît comme elle ne cesse de l'affirmer, que Dieu lui-même agit à travers elle, aussitôt une interrogation surgit. Pourquoi Dieu interviendrait-il directement dans l'histoire avec un grand H, l'histoire de France? Et aurait-il encore aujourd'hui, voilà pourquoi je vous présente ce livre aujourd'hui, aurait-il encore aujourd'hui des raisons d'entrer dans la destinée de ce pays? À un moment où la France doute d'elle-même, vous constatez bien, la France doute d'elle-même, où elle s'expose à de graves dangers qui menacent sa cohésion et son avenir. La réponse à ces questions, ainsi que la compréhension de l'épopée joannique et de sa place dans l'histoire de France, nous ferons constater que Jeanne d'Arc est plus que jamais une sainte d'actualité qui adresse à la France et au monde entier un message d'espérance. Alors, je vous lis un deuxième livre, je vous présente un deuxième livre pour l'Église, qui fait un peu suite, mais qui est quand même différent, pour l'Église, avec un grand E, l'Église, « Ce que le monde lui doit », un sous-titre révélateur. Et c'est par Christophe Dickès, édité par les éditions Perrin, ce qui est une référence de sérieux et de qualité. Alors, pour l'Église, « Ce que le monde lui doit », par Christophe Dickès. Parce qu'il y a des scandales en tout genre, des abus de pouvoir, des abus sexuels, escroqueries. L'Église, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas bonne presse. Critiquée, voire méprisée, elle évolue par ailleurs dans un contexte de déchristianisation généralisée, déchristianisation généralisée. Déshonoré par son passé et paralysé dans une crise présente qui n'en finit plus, elle semble n'avoir aucun avenir. Voilà. Et si, voilà. Et si elle trouvait justement dans ce passé des motifs d'espérance. Dans ce livre pour l'Église, qui est un essai argumenté et passionné, et passionnant à lire, ça je peux vous l'affirmer, Christophe Dickès nous donne un véritable plaidoyer en expliquant ce que le monde lui doit sans que nous ne le sachions vraiment, à travers 10 tableaux enlevés, il révèle l'influence considérable de ces hommes et femmes d'Église qui ont marqué l'histoire des sociétés, l'intelligence politique, les sciences même, et l'éducation. Voilà, l'éducation. Jusqu'à l'organisation même du temps par lequel il commence dans ce récit, parce que c'est à l'Église qu'on doit cette organisation, le calendrier, cette organisation même du temps, à l'opposé de l'image obscurantiste que l'anticléricalisme a souhaité lui acculer. L'Église nous apparaît d'une fécondité rare dans l'histoire des civilisations, sans occulter les pages sombres de sa longue histoire, 2000 ans. L'auteur montre qu'elle peut bel et bien cultiver un sentiment de fierté sans complexe ni arrogance, tant son apport a été et demeure inoubliable. Alors je voulais vous lire un court passage quand même, un exemple de cet essai écrit avec vigueur et rédigé à la lumière des dernières recherches historiques. Pour vous convaincre de la qualité de ce livre. La chrétienté latine, c'est l'Europe médiévale, l'Europe avec un grand E, l'Europe médiévale. Voilà, parce que on a parlé de Notre-Dame, de Paris, mais il y a dans la reconstruction, renaissance, il y a l'Europe médiévale. Du XIIe et XIIIe siècle. Comment embrasser cette réalité historique en quelques lignes ? La chrétienté latine trouve ses racines dans la conversion de l'empereur Constantin et l'édit de Milan en 313, qui pose le principe de la liberté de la personne, institue la laïcité de l'État. Ainsi, religion et État peuvent dès lors se séparer, ce qui constitue une des caractéristiques capitales de la réorganisation de l'Empire romain d'Occident et du christianisme médiéval. La culture européenne, quant à elle, trouve ses fondements dans l'œuvre de Saint Jérôme, vers 347-420, et en particulier sa traduction de la Bible en latin, qui s'impose à tout le Moyen-Âge. Les écrits de saint Augustin sont aussi essentiels. Son texte, La Cité de Dieu, constitue un des grands textes de la pensée européenne. L'augustinisme politique se définit par l'effort d'imprégner le gouvernement des hommes de valeur morale et religieuse, tout en séparant le pouvoir entre Dieu et César, le spirituel et le temporel. Dans le contexte du déclin de l'Empire romain, il faut encore citer Boèce, aux origines de l'humanisme médiéval, dont le rôle dans la transmission de l'héritage de la philosophie antique à l'Occident médiéval et moderne fut déterminant. Mais aussi Cassiodore, aux origines de l'Europe du livre et du savoir encyclopédique, fondant du monastère de Vivarium en Italie du Sud, il fait du travail intellectuel un élément essentiel de la vie monastique en louant sa valeur sanctifiante. Et comment ne pas évoquer Benoît de Nursie, qui est à l'origine du monachisme occidental et dont l'influence jusqu'à nos jours fut absolument considérable. La règle de saint Benoît, fondée sur la prière et le travail, propose un cheminement vers Dieu ainsi qu'un modèle de vie en collectivité, un texte dont on peut dire qu'il a véritablement transformé le cours de la civilisation occidentale. Quand Boèce peut être considéré comme le dernier des Romains, préservant les lueurs d'un Occident en déclin, saint Benoît, influencé par le monachisme oriental, nous apparaît comme la figure d'un nouveau monde. Enfin, un autre homme marque ses temps, Grégoire le Grand, 540-604, déjà évoqué, considéré par Jacques Le Goff, un grand historien, comme un des pères de l'Europe au même titre que saint Benoît ou Charlemagne. Et je m'arrête là, voilà, on va pouvoir écouter un peu de musique et puis continuer ce parcours, voilà. Thank you. C'est vrai qu'on pourrait l'écouter pendant des heures, cette si belle musique, sonate de Beethoven, interprétée par la géniale Maria João Pires, que j'adore, vous le savez. Alors je vais aborder un ouvrage terrible, intitulé « Les guerriers de l'hiver », avec un grand H, l'hiver, de Olivier Norek, qui est paru chez Michel Lafon, que je voulais vous présenter absolument. Un roman historique tout à fait hors norme, qui oppose deux pays, l'un minuscule, la Finlande, l'autre gigantesque, la Russie soviétique. Imaginez, chers lecteurs, qu'ils s'affrontent au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire. Un peuple se dresse avec son chef, Karl Gustav Mannerheim. On en a déjà parlé, Karl Gustav Mannerheim, président du Conseil de défense nationale de Finlande, contre l'ennemi qui est Staline et toute son armée, et qui n'accepte, Staline n'accepte aucune contradiction, aucune défaite de ses soldats, de ses militaires, chefs ou autres. Et parmi ces soldats finlandais, naît une légende, ces soldats finlandais qui résistent, naît une légende, la légende de Simo, intitulée, surnommée « La mort blanche ». C'est un simple soldat devenu un tireur d'élite extraordinaire. « Tu as sûrement entendu parler des enfers », dit quelqu'un. « Là, c'est pareil. Mais le diable lui-même ne comprendrait pas ce qu'il se passe ici. Car je suis certain que nous avons réveillé leur satané Sisu. S-I-S-U, Sisu. Je ne parle pas leur langue, camarade. Je ne pourrais te traduire ce mot, car il n'a d'équivalent nulle part, ailleurs. Le Sisu est l'âme de la Finlande. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance et la détermination de tout un peuple. Une vie austère dans un environnement, cet hiver terrible, un environnement hostile, a forgé leur mental d'un acier qui nous résiste aujourd'hui. Ce récit romanesque et historique est de Olivier Norek est tout à fait remarquable. Il faut le lire. Même s'ils ont dû s'incliner et perdre des territoires décrits sur les cartes jointes dans ce livre, cet ouvrage, leur résistance héroïque a sans doute changé le cours de la guerre à venir avec l'Allemagne nazie, qui a, pour finir, attaqué la Russie de Staline. Voilà ce que je voulais vous dire sur Olivier Norek, « Les guerriers de l'hiver », paru chez Michel Lafon. Je vais vous présenter un quatrième livre, une fantaisie peut-être, voilà. Après la guerre, mais j'y reviendrai sur la guerre après. « Voyage de noces », c'est de Alain Denizet, « Voyage de noces »,« noces » au pluriel, et c'est Ella Édition Histoire qui édite cet ouvrage. avec une préface de Pascal Horry de l'Académie française. C'est une diffusion Gilles Paris, je le dis, car je remercie Gilles Paris de m'avoir fait parvenir cette étude, parce que c'est une étude, un roman, mais une étude. Voyage de noces de Alain Denizet. Aujourd'hui, le voyage de noces est toujours à la mode, mais ne dure que quelques instants courts, où on va en Italie ou ailleurs, voilà. Mais c'est ou en Provence, mais sait-on que ses débuts remontent seulement au milieu du XIXe siècle. C'est ce que nous découvrons avec cette étude passionnante créée à partir d'un témoignage vrai, celui de Henri et Jenny Pelé, bourgeois de Courville-sur-Eure, en Eure-et-Loire, qui ont écrit ce récit, le récit, sur un petit carnet en 1853 de leur incroyable périple nuptial de 57 jours, deux mois, faire un voyage de noces qui dure deux mois, c'est pas banal, hein. C'est un document exceptionnel, il est la plus ancienne archive connue en France sur ce sujet. Alors, ils voyagent, à cette époque-là, en diligence ou à vapeur. Les jeunes époux nous entraînent dans un véritable tour de France. Voilà, ils n'ont pas attendu maintenant pour faire le tour de France. Alors, on va d'abord à Blois, puis Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Montpellier, Marseille, Nîmes, Avignon ou encore Lyon, avant de rentrer chez eux. 32 étapes urbaines passent par Paris, mais pour aller chez eux, du côté de Chartres. 32 étapes urbaines rompues par la pause pyrénéenne, apogée de leur voyage de noces, grâce à la beauté des cimes, des montagnes, des cimes, et aux paysages de montagne. Alors ils sont curieux de tout, Henri et Jenny, et multiplient les visites, s'abandonnent au plaisir des promenades à pied et à cheval, expérimentent les bains de mer à Marseille, les bains, parce que jusque-là, ben, ils ne connaissaient pas ce que c'était qu'un bain de mer. Marchaient, ben, bien sûr, quand même, vêtus dans la mer, éprouvent le vertige des montagnes, l'immensité de la mer, couplée à un magnifique cahier iconographique, voilà, de 50 pages, parce que Jenny aussi savait manier la plume pour dessiner des portraits ou des paysages. Ce livre permet de les accompagner jour après jour et de s'interroger sur leurs émotions, leur bonheur et le mystère de leur intimité, car à cette époque, on a beaucoup de pudeur, donc on ne parle pas trop de son intimité. Donc cela reste un mystère peut-être à imaginer. Voilà, ce texte « Voyage de noces » d'Alain Denizet est une belle réjouissance pour eux et un voyage dans le temps. Voilà pourquoi c'est important de le signaler. Un voyage dans le temps pour nous, grâce au talent de Alain Denizet. Et je passe à un autre livre, un cinquième roman, La Conspiration, intitulé La Conspiration Van Gogh, de Jonathan Sandlofer, et c'est paru au Cherche Midi. Puisque j'ai parlé de la guerre avec les guerriers de l'hiver, j'y reviens avec ce roman « La conspiration Van Gogh » de Jonathan Sanclofer. Il nous plonge en 1890 à Auvers-sur-Oise, dont je vous ai parlé. On retrouve donc à Auvers-sur-Oise Vincent Van Gogh, qui vient de mourir. Dans une lettre, son ami Émile Bernard évoque ses funérailles et l'auberge et l'hôtel où il est mort. Il décrit aussi les deux derniers autoportraits de l'artiste qui y figure. Un seul de ces tableaux sera retrouvé. Alors, où est passé l'autre ? C'est la grande question que ce roman pose. En 1944, à Los Angeles, John Decker, un artiste d'origine allemande, connu pour être un faussaire hors pair, devient le peintre en vogue du tout Hollywood. Il est promis un véritable succès quand il se trouve mêlé au meurtre d'une jeune actrice. En 2023, à New York, Luc Perron, l'enquêteur principal de cette aventure policière, car c'est une aventure policière, met la main sur un tableau signé John Decker avec sa compagne. Et ils vont gratter ce tableau parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose. Alors ils grattent ce tableau et ils s'aperçoivent que celui-ci recouvre un autoportrait de Van Gogh. S'agit-il du chef-d'œuvre perdu ou bien d'un faux signé Decker, car Decker fait des faux. D'origine allemande, il fait des faux. Et lorsque le tableau retrouvé, on décape et on retrouve le tableau, l'autoportrait de Van Gogh, et lorsque ce tableau est volé, ah ben, c'est le début d'une aventure palpitante qui va d'Amsterdam à Saint-Rémy-de-Provence, que va mener Perron et sa compagne Alex sur les traces d'une conspiration très très grande, avec aussi des tableaux et des œuvres d'art pillées par l'Allemagne nazie. C'est pour ça que je vous dis que j'allais parler à nouveau de cette Allemagne nazie qui a volé et pillé aux Juifs, mais aussi à toute autre personne, des objets d'art merveilleux. Et certaines, on les retrouve dans les galeries ou des musées en Amérique. Alors voilà, Jonathan Sanclofer s'inspire ici de faits réels pour nous donner un thriller fascinant où histoire de l'art et suspense se conjuguent à merveille. Jonathan Sanclofer est un artiste, peintre et écrivain qui vit à New York. Et ce superbe roman est traduit de l'anglais par Laurent Baruc. Voilà ce que je voulais vous dire de cette conspiration Van Gogh de Jonathan Sanclofer qui vient de paraître au Cherche Midi. Je peux vous dire que l'intrigue, tout ça, que l'écriture inspire beaucoup de lectrices et de lecteurs. Voilà. Alors, je voulais parler aussi d'une lettre. Il y en a des lettres dont j'aurais voulu parler, mais je vous parle de celle-ci. Lettre à la petite fille qui vient de naître, et c'est de Patrice Franceschi, qui vient de paraître chez Grasset, lettre à la petite fille qui vient de naître, car il est le parrain d'un troisième enfant, une petite fille de sa sœur. Voilà. Patrice Franceschi est écrivain, aviateur et marin, c'est un aventurier. Il a mené plein d'aventures, mais voilà, il est tout heureux d'écrire à la petite fille qui vient de naître et de lui donner des conseils. Ma chère enfant, tu as à peine quelques mois d'existence. L'avenir est tout entier devant toi, mais depuis le jour de ta naissance, je m'interroge sur le destin que te réservera le monde dans lequel tu viens de prendre place, et sur la manière dont je pourrais agir pour rendre ce destin le meilleur possible. Patrice, donc, est écrivain aviateur, je vous l'ai dit. C'est une lettre, cette lettre, elle est petite, mais elle est pleine de sincérité, d'ardeur aussi, et donc une lettre pleine d'espoir, de solution pour un regard d'enfant, en quête de rire, de paix et d'échange. Avec au cœur, il faut avoir la vérité, la beauté, le courage, l'appel du risque et de la sagesse. Alors il me reste encore quelques temps parce que je voulais parler d'une nouvelle traduction. Hemingway, Ernest Hemingway, le grand Hemingway, a fait un livre qui vient d'être réédité, L'adieu aux armes, par Gallimard. L'adieu aux armes. Plus de 80 ans après sa première parution, L'adieu aux armes demeure l'un des piliers de la littérature américaine. C'est une pépite. Donc c'est traduit, il y a une préface de l'auteur, mais cette traduction de l'anglais des États-Unis et un avant-propos de Philippe Jaworski, voilà pourquoi il a repris ce texte et qu'il a retraduit, pour le rendre peut-être un peu plus moderne. Considéré comme l'un des plus grands romans sur la Première Guerre mondiale, L'adieu aux armes nous propulse sur les champs de bataille du front italien. Son personnage, le jeune, ben voilà, on le voit. C'est là au cœur d'une violence omniprésente qu'une imprévisible histoire d'amour voit le jour. Son personnage qui parle, qui est principal, c'est Frédéric Henry, jeune ambulancier américain, engagé dans l'armée italienne. Donc ce qui donne un langage tout à fait singulier. Il rencontre la splendide Catherine Barclay, infirmière anglaise, et malgré des conditions de vie éprouvantes et l'infernal dilemme auquel ils font face, loyauté ou désertion, l'espoir d'un monde meilleur se met à grandir en eux. Fortement inspiré par son propre rôle dans la guerre, Hemingway signe ici un roman qui a marqué des générations de lecteurs et qui continue de nous éclairer sur ces années sombres de notre histoire commune. publié en 1931 dans la collection du monde entier, ce classique de la littérature américaine du XXe siècle, écrit par Hemingway au début de sa carrière, fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle traduction de Philippe Jaworski, traducteur littéraire émérite et spécialiste de son œuvre. Plus fidèle au style et au souffle de Hemingway, cette nouvelle édition, agrémentée d'une préface inédite de l'auteur, est une célébration de ce monument littéraire. Je peux vous dire que j'y trouve un grand, grand plaisir de lecture. Et je vous invite à faire de même avec L'Adieu aux âmes de Ernest Hemingway, qui vient de paraître tout récemment chez Gallimard dans cette nouvelle traduction. Et je vous dis, je crois que c'est pas mal, je vous ai présenté bien des livres. Et je vous dis donc à bientôt, bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine, si vous le voulez bien. Voilà, au revoir. Thank you.